Philosophe, une série de France Inter pour comprendre, découvrir ces grandes figures, ces révolutionnaires dont les idées, les concepts ont changé la manière de voir et vivre le monde. René Descartes. Né en Touraine en 1596, mort à Stockholm en Suède en 1650, contemporain de Louis XIII, de Galilée ou de Rembrandt, avec une philosophe, docteur, elle est agrégée, professeure à Sorbonne Université, autrice d'un livre lumineux, un que sais-je consacré à Descartes. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour.
Et bienvenue, je vous cite, peu de philosophes peuvent se vanter d'avoir changé la face du monde. Il y a le je pense donc je suis, le doute, le cartésianisme, la méthode, le bon sens qui est la chose du monde la mieux partagée, et on pourrait multiplier ce qu'on appelle dans le marketing ces punchlines. René Descartes, malgré tout, malgré tous ses classiques, c'est un révolutionnaire.
Ah oui, et puis je pense que de toute façon l'activité philosophique, quand elle est menée correctement, elle ne peut que révolutionner les choses, elle ne peut que changer les choses. C'est pas la même chose avant Descartes et après Descartes.
Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Qu'est-ce qu'il a de rebelle qui vous a autant attiré, qui vous a autant inspiré, Laurence de Villers?
Il a jamais été prof. Il a appartenu à personne, à aucune institution, à aucun pays, parce qu'on dit Descartes c'est la France, mais il a davantage vécu aux Pays-Bas. Et je trouve que avoir les idées claires, c'est un devoir qu'on se doit et qu'on doit au monde.
Il est philosophe, mathématicien, médecin, il a même pratiqué la vivisection, physicien, il s'est engagé dans l'armée, il a été l'auteur d'un très grand traité d'escrime et lui-même était un as, une épée à la main. Il n'a jamais mis les pieds dans une salle de cours. Alors qu'est-ce qui fait justement que pour vous c'est un rebelle, sachant en plus que la personne avec laquelle il a le plus et le mieux correspondu était une femme, une princesse, Elisabeth.
Alors il a même, j'ajoute à votre liste, il a même écrit un ballet pour la paix. Et oui, celle avec qui il a correspondu de 1643 jusqu'à sa mort, c'est Elisabeth de Bohême, et il dit que c'est en fait la seule cartésienne. En tout cas, je suis pas sûre qu'il veuille des cartésiens autour de lui, mais en tout cas il dit que c'est la seule qui ait compris tout le contenu de ce qu'il a écrit. Pourquoi Descartes est un rebelle? Parce que c'est pas comme ça, je crois, qu'on se le représente. Et,
non,
et,
pas du tout.
Non, et on a tort. Je le disais parce que en fait, il a pas, à part les principes de la philosophie, et encore, ça lui échappe de pas se plier à un style scolaire. Descartes, c'est pas fait pour être enseigné. Sa philosophie, elle est pas faite pour être enseignée. Je crois qu'elle est faite pour être découverte. Et ça, c'est très important, en fait, je trouve.
Sa façon d'écrire, ce n'est pas du tout celle d'un philosophe. Il n'y a pas de jargon. Il faut s'arrêter sur les titres de ses ouvrages qui sont en eux-mêmes une révolution. Les passions de l'âme, alors qu'en général on les a toujours associés au corps. Méditation métaphysique, c'est un vocabulaire religieux, mais qui va être utilisé, employé pour décrire une retraite philosophique. Le discours de la méthode, comme si c'était la méthode qui parlait.
En fait, j'ai tenté plusieurs fois de faire court rien que sur les titres. Méditation métaphysique, rien que ce titre. Alors, est-ce que ça veut dire que Descartes a importé en philosophie, ce qui serait ça aussi révolutionnaire, la modalité religieuse de la méditation? Je crois pas. Je crois qu'en fait, Descartes invente un style en philosophie, le style méditatif. Et pourquoi c'est important? Parce que, vous le savez, la difficulté avec la philosophie, c'est que c'est pas un savoir constitué. On peut pas dire, voilà, il y a des cases, ça faut le savoir, ça c'est fait. En fait, la philosophie, quand on veut en parler et en faire, il faut pouvoir faire comprendre à ceux à qui on s'adresse, non seulement ce qu'on veut leur faire comprendre, l'âme, le corps, les passions, mais qu'est-ce que ça fait de faire de la philosophie sur ces notions? Et c'est, je crois, une des rares disciplines, si ce n'est la seule, qui peut pas se constituer en une doctrine. Il faut à chaque fois qu'on fasse comprendre à ceux à qui on parle, qu'est-ce que ça fait de penser ça. Et Descartes, il a résolu le problème, c'est que, en fait, il faut que ce soit méditatif, il faut que ce soit une méditation. Pourquoi? Parce que le moment où vous enseignez, où vous exposez, c'est la même chose que le moment où vous découvrez la vérité.
La révolution, elle a un mot qui lui est associé, cogito. Traduction?
Je pense, mais alors, cogito, il l'a pas écrit, hein. C'est-à-dire que si le cogito, c'est le premier mot de cogito ergo sum, je pense donc je suis, il l'a pas écrit. C'est
il
pas
ne
de
l'a
Descartes.
Jamais écrit. C'est non. Pas de Descartes.
Non, c'est une traduction tardive, qui est pas de sa plume, du discours de la méthode, qui est écrit en français, il a voulu l'écrire en français, qui dit je pense donc je suis. Mais, c'est drôle, hein, sur quoi on bâtit le succès de sa philosophie, sur un malentendu. C'est qu'en fait, il n'a pas aimé cette expression « je pense donc je suis ». Et quand il écrit les méditations, qui sont plus abouties d'une certaine façon...
Les méditations métaphysiques.
Les méditations métaphysiques, quand il les écrit après le discours de la méthode, il a la vraie formule.
Il la trouve.
Il la trouve, c'est « ego sum ». Ego existo.
Je suis. J'existe.
Moi, je redouble parce que, en latin, vous auriez pas besoin de dire ego sum, ego existo. Pourquoi il l'ajoute? Moi, je suis. Moi, j'existe. Et sincèrement, Ali, c'est beaucoup plus fort.
Oui, mais qu'est-ce que ça change? Ça peut nous paraître évident et pourtant, l'affirmer, dire ces mots, ça bouleverse notre rapport à la connaissance et au monde. C'est-à-dire que pour définir ce cogito, pour le dire rapidement, il va dire en latin « je suis une chose qui pense ouais. ». Une chose ouais. C'est étrange.
Bah ça, c'est la force de Descartes parce que, en fait, Descartes repense tout et il veut le faire tout seul. Donc ça aussi, c'est l'assurance cartésienne. Hein. Il veut tout repenser, toute la philosophie, toute la physique, toute la métaphysique, toute la morale, tout seul. Et quand vous vous mettez à penser de zéro,
oui.
faut inventer la langue. Et la force de Descartes, c'est qu'il n'invente pas de jargon pour le dire. Il invente une langue réduite, ramenée à l'os. Qu'est-ce que je suis ? Une res cogitans, une chose en train de penser.
Oui.
Et Sainte-Beuve, au XIXe siècle, dira « Bon, Descartes, il n'a peut-être pas inventé une philosophie vraiment sophistiquée. Il dit franchement, méditer plusieurs heures pour aboutir à « je suis, j'existe », c'est pas grandiose. » Mais il a inventé une langue. Et il dit « Cette langue, elle va marquer la littérature pour longtemps. » Descartes est un écrivain, en même temps qu'un philosophe.
Ce n'est pas le « je » qui est décisif dans « je pense », c'est « je sais ». Que je pense. J'affirme mon existence au monde en pensant, et ça, au moins, c'est quelque chose dont je ne peux pas douter. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, le cogito, hein, ce qu'on appelle cogito, qui est le « moi je suis, moi j'existe ». En fait, je dois vous avouer que c'est sans doute le passage le plus difficile à comprendre de Descartes. Parce que ça semble tellement transparent, tellement facile, tellement évident. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, ben, je peux douter absolument de tout, y compris de moi qui suis en train de douter. Mais pendant que je fais ça, il se passe quelque chose qui s'appelle la pensée. Je suis en train de penser.
Oui.
Le doute, c'est de la pensée. Donc, pendant que je suis en train de douter que je pense, ben, il se trouve que je pense. Mais si je suis en train de penser, c'est donc que j'existe. Mais c'est trop proche d'un raisonnement, c'est une expérience métaphysique que nous propose Descartes. Et j'ôte même le mot métaphysique, il nous propose une expérience, il le dira, ce je suis, j'existe, il faut le manier, il faut le voir, il faut l'entendre. Vous vous saisissez comme existant, on pourrait faire l'expérience là, puisque comprendre Descartes, c'est le faire avec lui. Hein.
Oui.
On pourrait se dire, je doute de tout.
Reprenons justement l'expérience de Descartes, parce que c'est Descartes le militaire. Il rentre d'une campagne où il a combattu les armes à la main en Hollande, plusieurs années de voyage en Europe, et puis il s'enferme dans ce qu'on appelle un poêle, c'est-à-dire une pièce... Avec un poêle pour se réchauffer, et il fait des rêves qui le hantent et qui reviennent, et qui vont décider de sa vocation philosophique, qu'il décide de tout reprendre à zéro avec ce doute. Le paradoxe, c'est donc qu'il doute de tout pour arriver à une certitude, mais quand vous disiez qu'il faut douter de tout, ce qu'on appelle le doute hyperbolique, le doute systématique, c'est qu'il faut pousser la démarche, et j'invite nos auditeurs à le faire, parce qu'on l'a tous expérimenté, il faut même douter qu'on ne vit pas un rêve éveillé. C'est un sentiment qu'on a tous éprouvé.
Bah oui, et puis parce que quand vous rêvez dans les deux sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui me prouve, enfin c'est la base de Matrix, hein, du film, Matrix. Qu'est-ce qui me prouve que je suis vraiment dans le réel, que je saisis le réel, et nous qui vivons par écran interposé, c'est quelque chose qui nous parle. Et puis quand vous rêvez, qu'est-ce qui fait qu'il y a un cauchemar, ça vous fait peur parce que vous y croyez vraiment. Le doute, en fait, pour lui, c'est le moyen de pousser la pensée jusqu'au bout. Le doute, c'est une façon d'être radical. C'est pour ne pas s'arrêter en chemin. Ce qu'il veut, c'est parvenir à des certitudes.
Oui.
Mais si vous vous arrêtez en chemin, il se peut que vous ayez des pommes pourries dans votre panier. Donc, le doute, c'est du tri sélectif. Ça vous permet de mettre à part les pommes pourries pour pas en garder. Donc, ne pas garder des préjugés, par exemple. Et ben le doute, si vous le poussez jusqu'au bout, faut même vous demander, mais de quoi je suis certain ? De quoi je suis vraiment certain ?
Réponse, Laurence de Villers.
Bah, au départ, de rien. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui est si difficile, et il le dit lui-même. La fin de la première méditation, le cartésianisme aurait pu s'arrêter là. Il dit, en fait, c'est trop pénible ce que j'ai tenté de faire, de douter de tout, parce que, pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas douter, mais on le sait très bien. On a envie d'avoir des certitudes, on a envie d'avoir des convictions, on adore savoir quelque chose, on adore ramener notre fraise pour dire notre avis.
Évidemment.
Évidemment. Et lui, il vous demande de faire le contraire. C'est-à-dire, en réalité, ce que vous demande Descartes, c'est de penser contre vous. T'es sûr de ce que tu dis ? T'es sûr de ce que tu penses ? Et ça, c'est terrible. On a horreur de le faire. Et il le dit, à la fin de la première méditation, premier jour, j'aimerais m'arrêter. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de devenir Descartes, en réalité. Et il donne une métaphore qui est troublante, hein, qui est presque nietzschéenne. Il dit, comme un esclave qui, dans sa prison, rêve d'une liberté illusoire, je préfère encore retourner dans le sommeil des idées, dans le grand silence de la philosophie, plutôt que de faire ce que j'ai entrepris de faire, c'est-à-dire de parvenir à la certitude par le doute.
La certitude, le savoir, les fondements de la connaissance, c'est tout réinventer, tout reprendre de zéro, Laurence de Villers. Première phrase du discours de la méthode, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point à coutume d'en désirer. Vous voulez finir ?
Non, je vous laisse. J'aime bien vous entendre lire Descartes.
Que ceux-même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Laurence de Villers, le doute, ça s'oppose au bon sens. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. C'est l'un des autres tubes de Descartes. Et pourtant, on a l'impression que ça s'oppose à ce qu'il est en train d'essayer de faire comme démarche.
Alors, le bon sens, c'est pas le côté un peu bricoleur, hein. Le bon sens, ça veut dire la raison, l'intelligence. Tout le monde est intelligent. Ce qui l'intéresse le plus, c'est pas la vérité en réalité, c'est l'erreur. Qu'est-ce qui fait qu'on soit tous intelligents et qu'on soit tous bêtes, capables de bêtises ? Qu'est-ce qui fait qu'on ait tous les outils pour trouver la vérité et la conserver et la reconnaître et qu'en fait on soit sans arrêt dans l'erreur ? C'est ça en fait la vraie angoisse cartésienne. C'est comment ça se fait qu'on se trompe ? Et donc la chose du monde la mieux partagée, c'est l'intelligence. Ce qui est quand même révolutionnaire aussi d'annoncer ça, hein. On est tous intelligents. C'est pas un philosophe élitiste en réalité, Descartes.
Non.
Il peut l'être par certains côtés, parce qu'il dit que tout le monde peut pas être cartésien. Ça exige beaucoup. C'est une discipline. Mais son grand tube, vous l'avez dit, c'est dire l'intelligence, c'est tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Mais il y en a beaucoup qui se cassent la figure. Alors vous me dites, le doute, c'est le contraire de la pensée. Ben non. C'est son outil. En fait, le doute chez Descartes, c'est la manifestation de l'intelligence. C'est quoi quelqu'un de bête? C'est quelqu'un de buté. C'est ouais. Quelqu'un qui doute pas. En fait, il n'y a pas pire, il n'y a pas plus contraire à la certitude que la bêtise. C'est-à-dire celui qui croit qu'il est certain. En fait, il faut interroger ses certitudes. Il faut en douter pour être vraiment certain.
Un autre paradoxe de ce révolutionnaire qu'est Descartes, il y a Descartes le penseur, et on en a parlé, il ne faut pas oublier Descartes soldat, c'est-à-dire un homme qui a mesuré sa valeur immense de combattant sur les champs de bataille. Sur le champ de bataille, il n'y a aucune hésitation qui est permise. On ne peut pas reprendre les choses comme en philosophie ou lorsqu'on rate une démonstration mathématique. Alors, comment concilier les deux, justement ?
Ah oui, alors vous me faites penser à ça, et j'y avais pas pensé, c'est que Descartes dit que le temps de la connaissance, où on s'interroge, où on pense contre soi, où on doute, c'est vraiment le temps de la connaissance. Donc on peut se reprendre, on peut hésiter, on peut prendre une semaine pour faire de la philosophie, on peut attendre d'avoir atteint un certain âge pour se mettre à douter de tout, mais le temps de la vie, c'est pas du tout celui-là. En fait, le temps de la vie, c'est qu'on n'a pas de temps. C'est l'urgence. Exactement ce que vous avez dit, comme sur les champs de bataille. Et on ne peut pas se reprendre parce que dans la vie, tout n'a lieu qu'une fois et de cette façon-là. Et on ne peut pas dire, non, attendez, on va la refaire. Ça, c'est du cinéma.
Oui. Enfin,
c'est du théâtre, dirait Descartes. Ça, on ne peut pas.
Et quand on meurt, c'est définitif.
Et quand... Ah, c'est définitif. Alors, il prouve l'immortalité de l'âme.
Oui.
Mais bon, on y reviendra.
Le corps, en tout cas, on va y revenir à l'immortalité de l'âme.
La mort, elle a lieu une fois. Ça, c'est certain. Mais il va devoir proposer une morale, c'est-à-dire une façon de vivre, qui corresponde au temps de la vie. Et le temps de la vie, d'une certaine façon, on est toujours en plein milieu de l'action. En fait, vous avez remarqué ça. Quand on vit, On a toujours le sentiment que c'est ni le début, ni la fin, on est en plein milieu. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant, et on ne sait pas comment ça va finir. Et il a raison. Le temps de nos vies, de nos existences, c'est être en plein milieu de l'action.
Ce n'est pas une abstraction, justement, le cogito. Dire « je pense, je suis, je pense, j'existe », c'est extrêmement concret. Il parle des hommes et des hommes faits de chair et de sang. Ça, on l'oublie. Et ça aussi, c'est une forme de révolution qu'il accomplit, Laurence de Villers.
Ah oui, alors, bon, moi, Descartes m'a marqué, vous l'avez compris, pour très longtemps, même si j'ai décidé de le trahir. Mais la première fois que j'ai lu, je m'en souviens encore, c'est que j'ai compris que la philosophie, elle devait être passionnée ou ne pas être du tout. Mais, alors, ça va vous paraître curieux, vous allez me dire, avec Descartes?
Oui.
Bah oui, avec Descartes. Parce que j'ai trouvé l'homme derrière les écrits. J'ai senti vraiment quelqu'un qui me disait « Allez, vas-y, quoi, prends-toi en main, mets-toi à penser, fais de la philosophie. » Donc j'ai vraiment entendu une voix qui m'a montré que la philo, c'était concret. Et puis le cogito, c'est ce que je vous disais, c'est une expérience. Toutes les vérités cartésiennes sont des expériences métaphysiques. Si vous les faites pas pour vous-même, ça sert à rien. La philosophie est une langue morte.
Descartes, révolutionnaire, soldat, penseur, à suivre, René Descartes, le penseur de la liberté.